As Elder Ballard noted earlier in this session,
comme Frère Ballard l'a déjà fait remarquer au cours de cette session, divers contre-courants de notre époque ont attiré une plus grande attention du public sur l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours. Le Seigneur a dit aux prophètes anciens que cette œuvre dans les derniers jours serait une œuvre merveilleuse et un prodige, et elle l'est. Nous invitons tout un chacun à examiner de près l'aspect merveilleux de cette œuvre, mais il y a une chose que nous voudrions que tout le monde se demande, c'est si nous sommes ou non chrétiens. Dans l'ensemble, les controverses à ce sujet ont tourné autour de deux points de doctrine, notre vision de la divinité et notre croyance au principe de la révélation continue menant à un canon d'écriture ouvert. En parlant de cela, nous n'avons pas à nous excuser de notre foi et ne nous voudrions pas être mal compris. Aussi, avec le désir de faire mieux comprendre et de déclarer clairement que nous sommes chrétiens, vais-je parler aujourd'hui du premier de ces deux points de doctrine. Notre premier article de foi et le plus important de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est « Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit ». Nous croyons que ces trois personnages divins, constituant une seule divinité, sont unis pour ce qui est de leur but, de leur manière d'agir, de leur témoignage et de leur mission. Nous croyons qu'ils sont remplis du même sens divin de miséricorde et d'amour, de justice et de grâce, de patience, de pardon et de rédemption. Je crois qu'il est exact de dire que nous croyons qu'ils sont un pour tout aspect important et éternel imaginable. Mais nous ne croyons pas qu'ils sont trois personnages réunis en une seule substance, notion trinitaire jamais énoncée dans les Écritures parce qu'elle n'est pas vraie. En fait, la source réputée qu'est le dictionnaire biblique de Harper dit que la doctrine officielle de la Trinité, telle qu'elle fut définie par les grands conciles ecclésiastiques des 4e et 5e siècles, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. La critique selon laquelle l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ne partage pas la vision chrétienne contemporaine de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit n'est pas un commentaire sur notre engagement envers le Christ, mais en fait la constatation exacte, pourrais-je ajouter, que notre vision de la divinité rompt avec ce qui s'est passé après le Nouveau Testament et retourne à la doctrine enseignée par Jésus lui-même. Il pourrait être utile de rappeler brièvement ce qui s'est passé après la période du Nouveau Testament. En 325, l'empereur romain Constantin a réuni le concile de Nicée pour traiter, entre autres choses, de la question de plus en plus controversée de la prétendue unité de la Trinité. Ce qui a découlé des débats mouvementés entre hommes d'Église, philosophes et dignitaires ecclésiastiques a été connu, après encore 125 ans et trois grands conciles, sous le nom de Credo de Nicée, avec des reformulations ultérieures comme le Credo d'Athanase. Ces diverses évolutions et répétitions de credo, ainsi que d'autres au cours des siècles suivants, déclaraient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient des êtres abstraits, absolus, transcendants, imminents, consubstantiels, coéternels et impossibles à connaître, sans corps, ni partie, ni passion, demeurant en dehors de l'espace et du temps. Selon ces credos, les trois membres de la divinité sont des personnes séparées, mais sont un seul être. C'est le si souvent mentionné mystère de la Trinité. Ils sont trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Les trois personnes sont incompréhensibles, mais sont un seul Dieu qui est incompréhensible. Nous sommes d'accord avec nos détracteurs au moins sur ce point. Cette formulation de la divinité est véritablement incompréhensible. Une définition aussi confuse de Dieu étant imposée à l'Église, il n'est pas surprenant qu'un moine du IVe siècle se soit exclamé « Pauvre de moi, ils m'ont pris mon Dieu et je ne sais pas qui adorer ni à qui m'adresser. » Comment devrions-nous faire confiance à un être qui est incompréhensible et qu'on ne peut connaître, sans parler de l'aimer, de l'adorer et de nous efforcer d'être semblables à lui? Qu'en est-il de la prière de Jésus à son Père Céleste disant « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Nous n'avons pour objectif de rabaisser la croyance de qui que ce soit, ni la doctrine de quelque religion que ce soit. Nous respectons la doctrine de chacun, comme nous demandons qu'on respecte la nôtre. C'est aussi l'un de nos articles de foi. Si quelqu'un dit que nous ne sommes pas chrétiens parce que nous n'acceptons pas une vision de la divinité établie au IVe ou Ve siècle, qu'en est-il des premiers saints dont beaucoup avaient été témoins oculaires du Christ, qui n'avaient pas non plus cette vision? Nous déclarons qu'il est évident, d'après les Écritures, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnages distincts, trois êtres divins. Cela est illustré sans aucune équivoque par la prière du Sauveur que je viens de mentionner, par son baptême par Jean, par ce qui s'est passé sur le mont de la Transfiguration et au martyr d'Étienne, pour ne citer que quatre exemples. Avec ces sources du Nouveau Testament et d'autres qui résonnent dans l'oreille, il peut être superflu de demander ce que Jésus voulait dire par « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Une autre fois, il a dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Parlant de ses adversaires, il a dit, « Ils ont haï et moi et mon Père. » Et il y a bien sûr toujours cette humble soumission à son Père qui a fait dire à Jésus, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Un seul est le bon. Le Père est plus grand que moi. Qui Jésus a-t-il supplié avec tant de ferveur pendant toutes ces années, notamment quand il s'est écrié plein d'angoisse, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Reconnaître la preuve scripturaire que tout en étant parfaitement unis, les membres de la divinité sont néanmoins des êtres séparés et distincts, n'est pas être coupable de polythéisme. Cela fait en fait partie de la grande révélation que Jésus est venu donner concernant la nature d'être divin. L'apôtre Paul l'a peut-être dit le mieux. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Une autre raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours n'est pas considérée comme chrétienne par certains est que nous croyons, comme les anciens prophètes et apôtres, en un Dieu incarné, mais certainement glorifié. À ceux qui critiquent cette croyance basée sur les Écritures, je demande au moins pour la forme, si l'idée d'un Dieu incarné vous répugne, pourquoi les éléments centraux et les caractéristiques les plus distinctives de toute la chrétienté sont-ils l'incarnation, l'expiation et la résurrection physique du Seigneur Jésus-Christ? Si le fait d'avoir un corps n'est pas nécessaire ni désirable pour la divinité, pourquoi le Rédempteur de l'humanité a-t-il libéré son corps des liens de la mort et du tombeau, garantissant qu'il ne serait plus jamais séparé de son esprit dans le temps ni dans l'éternité? Quiconque rejette le concept d'un Dieu incarné rejette le Christ mortel et ressuscité. Personne proclamant être un vrai chrétien ne voudrait faire cela. À tous ceux qui m'entendent et qui se sont demandé si nous étions chrétiens, je témoigne que Jésus-Christ est littéralement le Fils vivant de notre Dieu vivant littéral. Ce Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur qui, sous la direction du Père, a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Je témoigne qu'il est né d'une mère vierge, que durant sa vie, il a accompli de grands miracles dont des légions de ses disciples ainsi que de ses ennemis ont été témoins. Je témoigne qu'il avait le pouvoir sur la mort parce qu'il était divin, mais qu'il s'est soumis volontairement à la mort pour notre bien parce que pendant une période, il a aussi été mortel. Je déclare qu'en se soumettant volontairement à la mort, il a pris sur lui les péchés du monde, payant un prix infini pour toutes les peines, les maladies, les chagrins et les malheurs depuis Adam jusqu'à la fin du monde. En faisant cela, il a été vainqueur à la fois du tombeau physiquement et de l'enfer spirituellement, et il a libéré la famille humaine. Je témoigne qu'il est littéralement ressuscité du tombeau, après être monté auprès de son Père pour terminer le processus de cette résurrection. Il est apparu de nombreuses fois à des centaines de disciples dans l'Ancien Monde et dans le Nouveau. Je sais qu'il est le Saint d'Israël, le Messie qui reviendra un jour en gloire, à la fin, pour régner sur la terre en tant que Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Je sais qu'il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux par lequel l'homme puisse être sauvé, et que ce n'est qu'en nous reposant totalement sur ses mérites, sa miséricorde et sa grâce infinie que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Mon témoignage supplémentaire concernant cette doctrine splendide est qu'en préparation à son règne millénaire dans les derniers jours, Jésus est déjà venu plusieurs fois dans son corps glorieux et majestueux. Au printemps de 1820, un garçon de 14 ans, troublé par ces mêmes doctrines qui déconcertent une grande partie de la chrétienté, est allé prier dans un bosquet. En réponse à cette prière fervente faite à un si jeune âge, le Père et le Fils sont apparus au jeune prophète Joseph Smith comme deux êtres incarnés et glorifiés. Ce jour a marqué le début du retour du véritable évangile du Nouveau Testament, du Seigneur Jésus-Christ et du rétablissement d'autres vérités prophétiques révélé depuis Adam jusqu'à ce jour. Je témoigne que ma connaissance de ces choses est vraie et que les cieux sont ouverts à tous ceux qui recherchent la même confirmation. Par le Saint-Esprit de vérité, puissions-nous tous connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Ensuite, puissions-nous suivre leurs enseignements et être de véritables chrétiens en action autant qu'en parole. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.